9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé, bonjour et bienvenue pour une nouvelle matinée santé. Je reçois aujourd'hui le docteur Mathieu Bernard, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Alors je rappelle que vous êtes cardiologue et hypnopraticien formé à la PNL, mais que vous êtes également formé à la médecine subaquatique et hyperbare. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est tout ce qui concerne la plongée loisir, mais aussi la plongée professionnelle. Et dans la plongée professionnelle, il y a ce qu'on appelle la plongée en air sec.
D'accord.
Qui est donc la mise en situation dans des zones où la pression est supérieure à la pression atmosphérique. Par exemple, dans les tunneliers qui creusent le métro du Grand Paris en ce moment, le milieu est dit hyperbare, c'est-à-dire qu'on est à des pressions qui sont supérieures à la pression qu'on a sur les épaules quand on se balade dans la rue.
D'accord. Et quelles répercussions sur notre cœur, par exemple?
Sur notre cœur, il y en
quand
a
pas... Quand on se retrouve dans des environnements hyperbares...
Comme... Il n'y en a pas tellement, parce que le corps s'habitue assez facilement. Le problème, c'est les fameux accidents de décompression que l'on peut avoir tant au niveau professionnel en milieu sec qu'en plongée loisir, où là on peut avoir la formation de bulles d'azote dans les tissus ou dans le sang. Mmh. Et ces bulles d'azote, quand elles sont dans le sang, elles viennent boucher des artères et ça entraîne des problèmes.
Alors on va beaucoup parler de respiration aujourd'hui. Je rappelle que vous avez écrit « Le cœur, notre autre cerveau » aux éditions Larousse. Alors on a aussi beaucoup parlé dans l'actualité hier du malaise vagal de Jonathan Daval. Qu'est-ce que c'est qu'un malaise vagal et qu'est-ce qu'il provoque?
Alors qu'est-ce qu'un malaise vagal? On va commencer par quelques rappels de physiologie. On a deux systèmes nerveux. Un système nerveux volontaire qui est celui qui me permet de vous parler, d'attraper un objet. Et on a le système nerveux autonome qui va gérer l'ensemble de notre physiologie corporelle. Ce système nerveux autonome, donc on n'a pas à y penser, c'est lui qui va réguler la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la digestion, etc. Ce système nerveux autonome est divisé lui-même en deux systèmes. L'un qu'on appelle sympathique ou orthosympathique et l'autre qu'on appelle parasympathique. Et ces deux systèmes sont en opposition. L'un va accélérer la fréquence cardiaque, augmenter la pression artérielle, c'est le système sympathique, celui qui est stimulé en cas de stress, en cas d'agression, où l'organisme va puiser dans ses réserves énergétiques pour soit fuir, soit combattre.
D'accord, si on a des palpitations, c'est ce système-là, par exemple, alors, qui réagit ou pas?
Ça peut être celui-là et ça peut être l'autre.
Ah bon, d'accord, donc mauvais exemple alors. Bon, en cas de stress, c'est le système nerveux sympathique.
Voilà, ouais. Et qui n'a sympathique que le nom. Et l'opposé, c'est le parasympathique, qui va entraîner un ralentissement de la fréquence cardiaque, une diminution de la pression artérielle, qui va relancer la digestion. C'est le système du zen, en fait. Quand on est bien, on n'est pas menacé, donc on peut digérer tranquillement. Mmh. Et quand ce système est sursollicité, on va avoir une baisse de pression artérielle trop importante, un ralentissement de la fréquence cardiaque trop important, ce qui fait que le cerveau est moins bien irrigué et que ça conduit à ce malaise. Le malaise vagal, présentant comme symptôme un voile noir devant les yeux, par exemple, des bouffées de chaleur, des bourdonnements d'oreilles, une sensation de fatigue, et dans les cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à la perte de connaissance.
C'est ce qu'on appelait avant la syncope, non ?
Alors, la syncope, c'est la perte de connaissance. Après, il peut y avoir plusieurs origines. Le terme syncope est utilisé quand c'est vraiment une origine cardiaque et c'est quelque chose de très brutal. La syncope, vous êtes debout, une demi-seconde plus tard, vous êtes face contre terre sans avoir pu vous protéger. On les reconnaît, les patients qui ont syncopé, parce que quand on fait la visite à l'hôpital, ils ont en général un œil au beurre noir, une dent cassée. On le sent vraiment pas venir et on n'a pas le réflexe de mettre les mains. Le malaise vagal, même s'il est très désagréable, très impressionnant pour la personne qui le vit et très impressionnant pour les témoins, on le sent toujours venir. Donc en général,
c'est-à-dire qu'il y a des symptômes avant,
il y a des signes avant-coureurs. On ne sent pas bien, on se sent partir et donc on a le temps de se protéger au moins. On peut aller jusqu'à la perte de connaissance, mais ce ne sera pas quelque chose d'aussi brutal que la syncope.
Et qu'est-ce qu'on fait justement si on le voit arriver?
Alors il y a deux solutions. La première, c'est de stimuler le système sympathique, donc il va falloir s'agiter, bouger les bras, etc. Mais c'est assez peu efficace. Donc la chose la plus simple, c'est de s'allonger. Si on peut s'allonger par terre, c'est pas toujours facile quand c'est au milieu de la rue ou au milieu d'un tribunal, et de surélever les jambes. Vous posez les jambes sur un canapé, une chaise, de façon à ce que le sang contenu dans les jambes redescende vers le cerveau, et donc que la pression au niveau du cerveau augmente, que le cerveau soit mieux irrigué et que les symptômes du malaise vagal soient diminués.
C'est une baisse de tension ?
C'est un ralentissement du rythme cardiaque et une baisse de pression artérielle.
Ouais, c'est quoi ? C'est l'hypotension par c'est opposition à l'hypertension. Mais est-ce que c'est aussi grave pour le système cardiovasculaire que l'hypertension ?
Non,
ou pas du tout.
Grave. C'est pas du tout grave. C'est juste gênant en fait. Gênant parce que c'est pas très agréable. Alors vous me demandiez qu'est-ce qui induit ces malaises vagaux ? Ce sont surtout des situations. Quand on est dans un endroit confiné avec beaucoup de monde, type la ligne 13 aux heures de pointe, où là on est tous écrasés, ça favorise la survenue d'un malaise vagal. Une douleur violente aussi. Parfois quand on a très très mal brutalement, où on a une petite sensation vertigineuse, on est patraque. Ce sont des signes vagaux. La faim et le stress.
D'accord. Et qu'est-ce qui fait remonter la tension là quand on a une baisse de tension comme ça ? Qu'est-ce qui peut la faire remonter ?
S'allonger et surélever les jambes.
Il n'y a pas à manger un aliment sucré enfin,
Pas pour la tension, non. Après, on sait que le réglisse a tendance à augmenter la pression artérielle, mais c'est sur une consommation à long terme.
C'est pour ça qu'on le déconseille aux gens hypertendus.
Exactement.
Ce qui nous permet de parler on va parler de cohérence cardiaque, mais de parler de ce qu'on appelle le nerf vague. Qu'est-ce qu'on appelle ce nerf vague ?
Alors, il faut savoir que la quasi-totalité de nos nerfs naissent de la moelle épinière, donc naissent de la colonne vertébrale. On a 12 paires de nerfs qui naissent directement du cerveau, ou de ce qu'on appelle le tronc cérébral, donc qui sont dans le crâne. Et le nerf vague est l'un de ces 12 nerfs. Et on l'appelle vague parce que les anatomistes, quand ils l'ont trouvé et l'ont décrit, ont constaté qu'il y avait plein de ramifications. C'est le nerf le plus long de l'organisme, puisqu'il naît directement du cerveau et il vient innerver l'ensemble de nos organes, en fait. Mmh. Il a des ramifications qui le conduisent au cœur, au poumon, au pancréas, au tube digestif, aux intestins, à la vessie.
C'est une voie de communication, finalement.
Exactement. Ouais. C'est à travers ce nerf que nos organes communiquent avec notre cerveau. Et ce nerf, non seulement envoie des informations, mais il en reçoit aussi. Et ce sont des informations motrices, puisque c'est lui qui va déclencher ce qu'on appelle le péristaltisme, qui est la contraction intestinale qui favorise la digestion. Mais il va envoyer et recevoir aussi des informations sensorielles. Mmh. Quand on a une sensation de ballonnement intestinal, c'est via le nerf vague qu'on perçoit cette information. Donc il y a des informations sensitives, motrices, sensorielles. Donc c'est un nerf qui est complet, qui est très diffus et qui a des capacités de relaxation de notre organisme qui sont redoutables.
Et est-ce qu'on peut le stimuler ?
Oui, on peut le stimuler.
Ce nerf vague ?
On peut le stimuler de différentes façons. On peut le stimuler en chantant parce que c'est aussi... il a des ramifications qui viennent innerver nos cordes vocales. Donc le chant permet de le stimuler. Le froid permet de le stimuler. En fait, au départ, on a une réaction du système sympathique quand on est exposé au froid, et très rapidement, c'est le système parasympathique qui est sollicité. Donc, l'une des façons de le solliciter, c'est de boire un grand verre d'eau froide. On peut le solliciter par le rire, par le yoga, la méditation pleine conscience et par la respiration. Je vous disais que le système nerveux autonome, donc qui se subdivise en système sympathique et parasympathique, comme son nom l'indique, il est autonome, il est totalement inconscient. Et en fait, l'unique paramètre qui soit sous la dépendance des deux systèmes, c'est-à-dire le volontaire et l'autonome, c'est la respiration. Quand vous dormez, vous ne pensez pas à respirer, c'est automatique. En revanche, quand vous êtes réveillé, si vous voulez bloquer votre respiration pendant quelques secondes, vous allez pouvoir le faire volontairement. Et si vous voulez accélérer votre rythme respiratoire, vous allez pouvoir le faire aussi. Vous la contrôlez volontairement. Et donc, via ce paramètre, qui est donc sous la dépendance du système nerveux volontaire et autonome, on va pouvoir stimuler ce nerf vague.
Mmh. On peut chanter, hein, si vous voulez aussi, sans vouloir halter, vous chantez. Je ne sais pas si les voisins seront contents, mais ça stimule le nerf. Respirer, c'est une fonction spontanée. Et pourtant, il y a cette idée que beaucoup de gens ne savent pas respirer.
C'est une idée, oui.
Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que finalement, il faudrait apprendre à bien respirer?
Non, il faudrait réapprendre à bien respirer. Prenez un bébé, le bébé respire normalement. C'est-à-dire que c'est une respiration abdominale, ventrale. Les bébés ont un gros ventre en général et ils respirent par ce ventre. Et quand on est stressé, on ne respire plus par le ventre, on respire surtout par la cage thoracique.
C'est-à-dire qu'on respire pas par les narines.
On respire par les narines, mais on a un phénomène d'aspiration qui vient soit du ventre, soit de la cage thoracique. Et la respiration normale, c'est le diaphragme qui s'abaisse. Donc en s'abaissant, il vient pousser les organes digestifs qui vont sortir. Donc le ventre se gonfle vers l'extérieur quand on inspire, et quand on expire, normalement on doit rentrer le ventre, le nombril doit presque se coller à la colonne vertébrale.
Et on peut perdre beaucoup de poids d'ailleurs, rien qu'en apprenant à respirer. Ça,
exactement.
C'est un truc que les gens ne savent pas. Hein.
Et pour tous les auditeurs musclés qui nous écoutent, en fait, la meilleure façon de gainer ses abdominaux, outre la planche, c'est la respiration ventrale. Et tout ce qui est relevé de bus, crunch, c'est très délétère, parce que ça va favoriser en fait ce qu'on appelle la hernie ombilicale. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de la pression intra-abdominale qui vient pousser sur les muscles grand droit de l'abdomen, qui peuvent s'écarter, et on va avoir le nombril qui sort. Donc
bien respirer, c'est presque plus efficace que de faire des abdos et des crunchs.
C'est ça.
Pour avoir des bons abdos. Quel est le rôle de la respiration aujourd'hui? Ça sert à quoi de respirer?
Alors la respiration, elle apporte l'oxygène qui est nécessaire au fonctionnement de notre organisme. En fond, les deux principales sources d'énergie sont le glucose et l'oxygène qui rentrent dans différents cycles chimiques pour produire de l'énergie. Donc ça, c'est le principal rôle de la respiration, apporter de l'oxygène et évacuer le dioxyde de carbone, qui est le produit de dégradation de l'oxygène quand celui-ci est consommé.
On respire de façon égale par les deux narines ou pas?
Alors,
elle est peut-être bête, hein, ma question, mais...
Non, elle n'est pas du tout bête, parce qu'il y a une alternance. Alors, sauf chez les personnes qui ont une déviation de la cloison nasale, mais en fait, quand on respire, on va respirer principalement pendant quelques minutes par une narine, et puis on a un changement de cycle, et c'est l'autre narine qui va inspirer davantage.
Mais on a une narine dominante ou pas?
Non, je crois pas.
Non. Et alors, si on respire par la narine droite ou gauche, l'air va d'un autre côté. Enfin,
non, ça change. Après, on a un seul et unique tuyau qui va se diviser, donc la trachée qui va se diviser en deux bronches, et donc elles vont être alimentées de la même façon.
Les recherches se préoccupent assez peu de la respiration, finalement. Pourquoi?
Alors, parce que la respiration, tout le monde est capable de le faire, donc ouais. Aucun laboratoire n'a intérêt à vous faire bien respirer.
Mais par exemple, quand on voit les travaux notamment de Iceman, l'homme de glace, qui part grâce à c'est un procédé de respiration finalement, qu'il arrive à aller dans le froid, est-ce que finalement aujourd'hui la science arrive à expliquer pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne?
Alors, ce fameux Iceman est le sujet d'études de 12 laboratoires à travers le monde maintenant, donc sa méthode commence
Mais est-ce qu'ils arrivent à expliquer comment ça marche? Parce qu'aujourd'hui, visiblement, il n'y a toujours pas d'explication de voir comment il arrive, lui, à aller dans des zones de froid aussi intenses.
Alors, il y a l'entraînement. Et puis, il y a une grosse part de méditation. J'ai vu un reportage sur une nageuse russe qui a plongé nue en Russie, donc avec des belugas, dans une eau à moins 1,5 degré. Donc, elle n'est pas gelée, puisque c'est de l'eau salée, la température où l'eau glace, c'est quand elle est salée, est inférieure à 0 degré. Et donc, elle a fait de magnifiques photos avec ses belugas. Et c'est une apnéiste de formation. Donc, elle a d'une part l'habitude de plonger en apnée, et d'autre part, elle fait beaucoup de méditation. Et puis, c'est une Russe, donc elle est plus habituée que nous au froid polaire.
Et on sait que c'est bon pour la santé, mais on ne sait toujours pas pourquoi.
Parce que ça stimule le nerf vague.
Bonne réponse, Doc. Bon, alors, ça fait plusieurs émissions qu'on doit en parler. On va parler de respiration tout à l'heure et de cohérence cardiaque, puisque c'est un bon exercice à pratiquer, notamment en ces temps de confinement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et le docteur Mathieu Bernard est avec nous, cardiologue et hypnopraticien. On a appris tout à l'heure que vous êtes également formé à la médecine subaquatique et hyperbare, pour ceux qui veulent plonger d'ailleurs. Quand on plonge d'ailleurs, on est obligé de passer un examen de santé. Hein.
Ça dépend si
aujourd'hui.
Si vous plongez avec la Fédération française ou si vous plongez avec le PADI. Le PADI, on est sous les règles américaines et donc c'est aux pratiquants de prendre ses responsabilités. Donc vous pouvez signer un certificat sur l'honneur comme quoi vous n'avez pas de problème de santé. Et vous êtes donc dispensé de certificat médical.
Alors Ossine est avec nous au 01 53 48 3000. Ossine, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour docteur.
Bonjour Ossine. Alors, le docteur Bernard vous écoute, Ossine.
Docteur Bernard, très bien. Moi, j'ai une douleur, j'ai l'impression que ça vient de la poitrine, du cœur. Et lorsque je suis parti consulter un médecin, sans même réellement me consulter, il dit non, c'est pas le cœur, ça vient de l'estomac, des reflux. Mais tout en sachant que cette douleur est pertinente, je l'ai depuis des années. Mais en revanche, lorsque je faisais du sport, je me suis un petit peu calmé. Je pense d'ailleurs repartir pour le footing. Bah, cette douleur s'efface.
Quand vous faites du sport, vous n'avez pas de douleur?
Non, elle disparaît. Alors, okay. Est-ce que c'est vraiment cardiaque ou autre chose?
Vous avez quel âge, Ossine?
40 ans tout rond.
40 ans tout rond. Et donc là, le sport, vous l'avez arrêté depuis combien de temps?
Une belle année.
D'accord, bon, je pense, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais si vous fumez, si vous êtes en surpoids, si vous avez un peu de cholestérol, si vous faites du diabète, si dans votre famille, avant 60 ans, il y a des maladies du cœur qui sont apparues, je vous conseille quand même, avant la reprise du sport, de faire un test d'effort, pour être vraiment certain. Et puis, est-ce que cette douleur, quand vous appuyez à l'endroit de la douleur, est-ce que vous la déclenchez? Est-ce qu'elle augmente quand vous appuyez?
En fait, quand je dors sur le côté gauche, c'est pénible. Et quand je dors sur le côté droite, je la sens beaucoup moins.
D'accord. Et quand vous appuyez, si là, à l'endroit de la douleur, si vous appuyez, est-ce que vous la déclenchez?
Certainement, oui.
D'accord. Donc là, on est plus sur un problème de paroi. Donc je vous invite à peut-être voir un ostéopathe aussi, si vous n'en avez jamais vu.
Et fut un temps, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien.
Oui.
Et depuis, j'ai tourné avec une personne de 120 kilos.
Ah.
Et donc, il a
sur le grappling, ça doit être un peu compliqué.
Sur ma cage thoracique. Et j'ai senti cette douleur depuis là, mais je sais pas si c'est réellement lié. Est-ce qu'il est possible que tout le côté osseux des côtes, est-ce qu'il est possible qu'elle puisse plus se rétracter vers l'intérieur ou pas du tout?
Oui, vous avez pu avoir une côte de déplacée à la suite de ce combat. L'ostéopathe, là encore, pourra vous dire s'il y a quelque chose de coincé, de bloqué, de déplacé, et pourra débloquer ou remettre en place le cas échéant.
Ostéopathe?
Oui.
D'accord.
Mais est-ce que vous avez vérifié vos côtes, en fait, finalement? Aussi.
Depuis 2-3 ans, non, je ne l'ai pas fait.
Mais depuis que le gros, là, de 120 kilos, il vous est tombé dessus sur votre cage thoracique, vous avez vérifié ou pas?
Oui. Mais je me pose la question, à savoir si vraiment, d'un point de vue osseux, il est possible qu'on puisse rentrer toute la cage thoracique par l'intermédiaire de ce qui est osseux, quoi, les côtes.
Alors oui, vous pouvez avoir une côte de déplacé. Rentrer toute la cage thoracique, c'est possible, mais c'est un choc très très violent. Et puis vous auriez une déformation de votre poitrine, donc vous le verriez. Mais l'ostéopathe...
lorsqu'on est en fait soumis, donc on tape pour que l'adversaire lâche la pression.
Oui.
Et ben là, j'étais à deux doigts de partir, quoi. Je me sentais vraiment étouffé.
Ouais, peut-être qu'il faut commencer par par faire du jiu-jitsu avec des gens de votre poids aussi, non?
Ouais, mais dans le jiu-jitsu, on prend l'adversaire qui a.
Parce que 120 kilos, c'est David Douillet, là.
Ben moi, je prends le plus costaud pour progresser.
Bonne réponse. Bon, docteur Bernard, c'est l'ostéopathe que Ossine doit aller voir?
Je pense. Vous nous repasserez un petit coup de fil une fois que vous l'aurez vu pour nous dire que tout va bien.
Merci infiniment et très bonne journée à vous.
Merci aussi pour votre question. Alors, on va parler de la cohérence cardiaque, docteur Bernard. Est-ce que c'est un outil à la mode ou c'est plus utile que ça?
C'est un outil utile à la mode.
Ouais. Comment vous avez fait connaissance, vous, justement, de la cohérence cardiaque?
En lisant le livre de Servan Schreiber, Guérir. C'est lui qui l'a importé en France, d'ailleurs. Mmh. Guérir de la dépression sans médicaments. Mmh.
Les cardiologues l'utilisent?
Non, vous rigolez.
Non? Même pas en prévention ou après un infarctus?
Si, en rééducation cardiaque essentiellement. Mmh. Mais les cardiologues de ville ne connaissent pas en général la cohérence cardiaque.
Bon, alors qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? On va expliquer à tout le monde en quoi ça consiste.
On va reprendre les bases. Le cœur est à quelques millisecondes près réglé comme un métronome. Mais votre cœur varie, enfin la fréquence cardiaque varie en permanence. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps à 60, on fait 58, 59, 62, 57, 58, 61, 60, etc. Ça monte, ça descend. Pourquoi ça monte et pourquoi ça descend? Parce que c'est sous la dépendance du système nerveux autonome dont on parlait tout à l'heure. Et donc vous avez le sympathique qui accélère, le parasympathique qui freine. Et c'est comme quand vous conduisez, à moins d'un régulateur de vitesse sur l'autoroute où vous êtes à 130, si vous êtes en train de conduire en ville, eh bien il y a des piétons qui traversent, il y a des ralentissements, il y a des feux rouges, vous êtes le pied sur la pédale et vous accélérez, vous freinez, vous accélérez, vous freinez.
Alors comment vous appelez-vous l'intervalle entre deux battements? C'est un nom?
C'est un nom. Vous me posez une colle, je crois pas.
J'ai vu variabilité sinusale.
Alors, oui, pardon.
Je crois que j'ai vu ça dans un livre que j'ai.
Vous me piégez.
Non.
Donc, cette variation, effectivement, de temps entre deux battements, elle est normale et c'est ce qu'on appelle la variabilité sinusale. Sinusal, c'est un rythme normal en fait. On a une structure qui s'appelle le nœud sinusal et qui envoie en moyenne entre 60 et 80 influx électriques par minute qui vont déclencher les contractions du cœur. Ça, c'est au repos. Donc cette variabilité, elle s'étudie au repos. Et cette variabilité, donc cette variation de temps entre deux battements, elle est complètement anarchique. La cohérence cardiaque permet d'harmoniser cette variation
anarchique.
Ouais. Et en harmonisant cette variation, en fait, on va synchroniser la plupart de nos rythmes biologiques. On a aussi une activité électrique cérébrale et on va synchroniser tout ça. Et on sait que cet état d'harmonie, de synchronisation, va entraîner une diminution de notre sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress chronique, va augmenter la sécrétion de DHEA, qui est la déhydroépiandrostérone, qui est, elle, identifiée comme étant l'hormone de jouvence.
Je crois que c'était le truc qu'on prenait quand on a... Ce qui est très à la mode, quand on vieillissait, on se substantait en DHEA.
Exactement, parce que nos sécrétions, notre quantité de DHEA diminue avec l'âge. Donc pour lutter contre ça, on peut se fournir en Belgique en DHEA.
Bien. Donc on va faire que finalement la variabilité passe d'anarchique à harmonieuse.
Voilà.
Comment on fait?
Comment on fait? Eh bien, comme les battements cardiaques sont soumis au système nerveux autonome, on va une fois de plus utiliser l'unique paramètre sous la dépendance du système nerveux autonome et du système nerveux volontaire, et qui est la respiration. Donc, pour se mettre dans un état de cohérence cardiaque, il faut caler sa respiration sur un métronome, l'inspiration se faisant sur 5 à 6 secondes et l'expiration se faisant sur 5 à 6 secondes. Ajoutez à cela, vous devez avoir des pensées positives. Ça n'a l'air de rien, mais si vous êtes en train de broyer du noir et que vous vous mettez à respirer, vous allez stimuler le nerf vague, puisqu'en respirant de façon ample et profonde, on stimule le nerf vague. Mais pour autant, vous ne serez probablement pas en état de cohérence cardiaque.
C'est-à-dire que si on pense à autre chose, ou qu'on pense à ses factures, ou à son robinet qu'on
oublie, mort.
Ça marche pas.
Oui, ça, d'accord. Ça fonctionne pas.
Alors, il faut la pratiquer à quelle fréquence par jour ?
Alors, les protocoles d'études ont tablé sur 3 séances par jour, à raison de 5 minutes. Et il faut le faire le matin au réveil, 6 heures après, vers midi 13h, et vers 17-18h. C'est inutile de le faire le soir, puisque le but de la cohérence cardiaque, c'est de faire baisser les niveaux de cortisol, donc de cette hormone du stress. Et naturellement, le cortisol diminue la nuit pour nous laisser tranquilles quand on dort et commence à réaugmenter un petit peu avant le réveil pour préparer le corps à la journée. Et donc, c'est naturellement, le cortisol baisse. Donc, c'est inutile de le faire à 22h. Vous allez vous sentir mieux, détendu, apaisé parce que cette respiration ample et profonde apaise, mais vous n'allez pas tirer les bénéfices de la cohérence cardiaque.
Donc, 3 fois par jour, il y a de nombreuses applications qui existent, des logiciels, des chaînes YouTube. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, docteur Bernard ?
Je conseille vraiment fortement d'investir dans une application et un capteur de pouls qui permet de savoir précisément si oui ou non vous êtes dans un état de cohérence cardiaque. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que je respire en suivant ce métronome, même en le faisant très bien, si derrière vous n'avez pas les pensées positives, vous n'êtes pas certain d'être en cohérence cardiaque. Et si vous n'êtes pas en état de cohérence cardiaque, vous n'en tirerez aucun bénéfice.
Donc ensuite, cet état de cohérence cardiaque, on va le garder combien de temps après avoir fait l'exercice?
Alors, cet état d'harmonie, on le garde juste le temps de l'exercice. Dès qu'on arrête de respirer et de se concentrer sur ses pensées, on retrouve cet état anarchique. Mais on sait que 5 minutes de cohérence cardiaque, ça entraîne un bénéfice de 6 heures.
D'accord. On n'est pas en cohérence cardiaque pendant 6 heures, mais les bénéfices mesurent et durent 6 heures.
Exactement.
C'est ça.
À l'état normal, on n'est jamais en état de cohérence cardiaque. L'état de cohérence cardiaque, c'est un état provoqué, induit par un effort respiratoire. Enfin, un effort, c'est non pas que ce soit compliqué, mais c'est par une volonté d'être dans cet état de cohérence cardiaque. Mais à l'état naturel, on a la capacité
de l'être. On est forcément incohérent, alors,
on est incohérent.
D'accord.
Mais en tout cas au niveau cardiaque.
Si j'ai bien entendu ce que vous disiez, c'est qu'il faut bien pratiquer l'exercice, sinon finalement on n'obtient pas le résultat escompté.
Ce qui serait dommage, parce que vous prenez du temps, c'est du temps pour soi. Alors oui, on l'a pas précisé, mais vous pouvez pas faire ça à votre bureau avec le téléphone qui sonne. Il faut que vous soyez dans votre bulle. Ce sont 3 fois 5 minutes que vous prenez pour vous. Il ne faut pas qu'il y ait un téléphone qui sonne. Vous ne pouvez pas le faire dans les transports en commun. Si vous êtes sur un strapontin et qu'il y a un afflux de passagers et qu'il faut vous lever, ce n'est pas possible.
Pas dans la voiture, c'est peut-être pas
pas en conduisant, non.
C'est pas la bonne. Mais on a du temps dans sa voiture parfois, mais.
Oui, mais non.
Non, d'accord. Est-ce qu'on voit sur YouTube, est-ce que vous conseillez ou pas ?
Le problème, c'est
qu'on
n'a pas.
Parce que vous avez des vidéos sur lesquelles, qui sont paramétrées, sur lesquelles vous pouvez suivre effectivement les fréquences.
Oui. Mais on n'a pas ce capteur de pouls qui nous permet, avec une analyse fine, de savoir si oui ou non on est en état de cohérence cardiaque. Donc si on s'y intéresse, alors c'est un budget, mais il y a différentes applications. Vous avez des applications qui utilisent le capteur de l'appareil photo du smartphone et le flash du smartphone pour capter le pouls. Vous posez le doigt simplement, l'appareil photo capte le pouls, et vous avez l'application qui fait l'analyse. D'accord. Donc ça, c'est le budget, c'est entre 5 et 15 euros. Donc on peut commencer par ça. Et après, si on veut progresser, si on s'y intéresse davantage, on a d'autres applications qui apportent beaucoup plus de données. Et c'est ce qu'on appelle le biofeedback, en fait. Donc le biofeedback, c'est le feedback, c'est le retour d'expérience biologique, parce que ce sont sur des données biologiques que l'on fait cette analyse. Et le biofeedback permet de progresser, parce que vous savez, vous comprenez qu'en faisant telle chose, là vous êtes dans un état de cohérence cardiaque, en faisant telle autre, vous ne l'êtes plus. Donc petit à petit, vous devenez meilleur.
Bien. Fadila est avec nous. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, on vous écoute,
c'est
Fadila.
Fadila.
Pardon ?
C'est Kalida. Kalida.
Kalida. Kalida.
Oui,
bienvenue,
voilà.
Kalida.
Bonjour, docteur. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Kalida.
Bonjour. Je voulais savoir, j'ai ma mère qui est âgée de 70 ans et elle est atteinte d'arythmie. Et elle a un traitement pour cela et je voulais savoir la cohérence cardiaque, est-ce que ça peut être bénéfique pour elle ou pas? Est-ce qu'il y a des études sur ça? Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'arythmie et la cohérence cardiaque, en fait?
Alors, l'arythmie, c'est un terme générique pour dire qu'il y a un problème de rythme. Et il y a énormément d'arythmies.
Oui.
Les sujets jeunes ont une arythmie ce qu'on appelle sinusale et qui est liée à la respiration. Donc ça n'est pas pathologique. Maintenant, compte tenu de l'âge de votre maman, elle a probablement ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire, qui est un type d'arythmie plus fréquent chez les femmes âgées. Et là-dessus, la cohérence cardiaque ne peut pas faire cesser l'arythmie. La cohérence cardiaque, elle peut être bénéfique pour votre maman parce que ça va la détendre si elle est stressée. Mais la fibrillation auriculaire, ça veut dire qu'il y a une anomalie qui s'est développée, qui est principalement liée à l'âge parce que le cœur vieillit et parce qu'on a de la fibrose. Et cette fibrose va créer ce qu'on appelle des micro-foyers. Au lieu d'avoir un seul nœud sinusal qui envoie une impulsion électrique 60 à 80 fois par minute, on va avoir des dizaines, des centaines de micro-foyers qui vont envoyer plein d'impulsions en l'absence de traitement, c'est entre 150 et 300 par minute. Et donc, ça génère l'arythmie. Et là, la cohérence cardiaque ne pourra pas faire grand-chose. Ce sera difficile aussi pour votre maman d'atteindre l'état de cohérence cardiaque parce que là, on a une anarchie totale bien plus importante que celle qui est liée à la variation sinusale normale naturelle. Voilà. Donc pour votre maman, étant donné qu'elle est en fibrillation auriculaire probablement, ce sera difficile d'atteindre cet état de cohérence cardiaque. Sauf si elle a été en fibrillation auriculaire et qu'elle a été traitée, soit par une intervention, soit par des médicaments, soit par ce qu'on appelle un choc électrique, et que aujourd'hui, elle n'est plus dans cet état de fibrillation auriculaire. Mais pour la prévenir, la cohérence cardiaque ne fera pas grand-chose parce que c'est une anomalie structurelle, c'est-à-dire que maintenant son cœur est un petit peu fibrosé et que cette fibrose a généré cette arythmie.
D'accord, merci docteur.
Merci Kadila pour votre question.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir. Au revoir. Alors, on peut avoir des bénéfices sur quel type de pathologie, finalement, avec la cohérence cardiaque?
Alors, aux États-Unis, où la cohérence cardiaque est bien plus utilisée qu'en France, on a des effets sur les syndromes dépressifs, sur les douleurs chroniques, typiquement dans la fibromyalgie, c'est très utilisé là-bas. Et on sait aussi que la pratique de la cohérence cardiaque entraîne une baisse de la pression artérielle. Moi, j'ai quelques patientes, notamment, qui avaient une hypertension artérielle qui était vraiment liée au stress, aux émotions. Et j'en ai donc plusieurs qui, grâce à la cohérence cardiaque, ont normalisé leur pression artérielle, ont pu se passer de médicaments. Mais là, on est vraiment sur un type d'hypertension artérielle qui est très précis. Mmh. C'est vraiment lié à la sécrétion d'adrénaline véhiculée par les émotions. Les patients âgés qui ont une hypertension artérielle parce qu'ils ont une rigidité artérielle, là encore un vieillissement des tissus, on sait que la cohérence cardiaque va améliorer, mais ça ne permettra pas de normaliser les pressions artérielles. Et ça diminue aussi le risque d'infarctus.
Bien, docteur Mathieu Bernard, vous êtes notre invité jusqu'à 10h. On parlera dans un instant de l'apnée du sommeil. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser au docteur Bernard, vous pouvez le faire au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et c'est le docteur Mathieu Bernard qui est avec nous, cardiologue et hypnopraticien et auteur de Le cœur, notre autre cerveau, aux éditions Larousse. Alors on va parler de l'apnée du sommeil, mais Nordine, du nord de la France, vous attend, docteur. Nordine, bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour docteur, je suis ravi de vous avoir.
Bonjour Nordine.
Téléphone, Beurre FM. Ça fait des années que j'essaie d'appeler, j'arrive pas à joindre. Je suis vraiment ravi, Philippe. Voilà, je voudrais poser une question. Ça concerne ma personne. J'ai un problème d'arythmie cardiaque.
Oui.
Alors, en fait, je faisais beaucoup de sport. J'ai 54 ans. Je faisais beaucoup de sport, mais je ne fume pas. J'ai fumé, on va dire, temporairement quand j'étais jeune. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai repris en 2010, quelques mois. Après, j'ai arrêté. Et à partir de 2018, j'ai eu ce qu'on appelle une bradycardie, je sais pas, je le dis mal, je pense. Enfin, mon cœur se ralentissait, en fait. Il ralentissait, et j'avais remarqué ça dans la période d'été, et ensuite à l'effort. Deux fois, ça m'est arrivé à l'effort. J'avais dépanné un voisin pour sa voiture. Bon, c'était au sous-sol d'un garage, donc il n'y avait pas d'oxygène. Mon cœur commençait à ralentir, et là, par contre, à l'extérieur, j'ai eu la même chose. J'ai couru, et mon cœur s'est ralenti, et parfois il ralentit. Voilà. Donc, je voudrais savoir ce que je peux faire, et si c'est grave, quoi.
Le cœur s'est ralenti pendant que vous faisiez l'effort ou à l'arrêt de l'effort?
Exactement, vous avez posé la bonne question, docteur. En fait, j'ai constaté à l'effort, à deux reprises, même une fois en vélo, quand je faisais du vélo chez mon kiné, progressivement. D'autres fois, c'était en repos, quand je dormais, au sommeil, quand je m'allongeais. Parfois, il ralentissait, puis il repartait. Par contre, à l'effort, il ralentissait pendant un laps de temps très long.
D'accord. Et ça, vous l'avez constaté parce que vous avez un cardiofréquencemètre ou une montre?
Non, même pas. C'est par rapport à moi. Comme je faisais beaucoup de sport, je fais attention. Comme je sais que à l'époque, mon cœur, j'avais plus des tachycardies qu'un ralentissement. Voilà, donc je voyais qu'il était normal. Mais là, je le voyais parce que je m'étouffais, quoi. Ouais.
Et vous avez pris votre pouls au moment où vous étouffiez?
Non, je ne l'ai pas pris. Mais je voyais qu'il ralentissait.
Et comment vous l'avez vu?
Ben parce qu'il battait moins vite. Voilà. D'habitude, il bat, il y a un rythme.
Mm-hmm. Là, ça veut dire que vous sentez le cœur dans la poitrine?
Ah oui, je le sentais, oui. Quand il y a une accélération cardiaque, comme ça m'arrivait de temps en temps quand je faisais le coup de sport, je voyais qu'il accélérait, je me calmais. Et ben, au même titre qu'au repos, là, quand il battait moins fort, je le sentais aussi. Donc j'avais très peur.
D'accord. Bon, je pense qu'il faut, là c'est difficile de se prononcer, il faut aller un petit peu plus loin, il faut que vous voyez un cardiologue. Le minimum, c'est de faire un électrocardiogramme.
J'ai fait.
Vous l'avez fait?
Trois ans, ouais, depuis une dizaine d'années, je fais attention. Je l'ai fait il y a un an, je crois.
D'accord.
J'ai fait les tests d'effort, Doppler. Ils n'ont rien remarqué. Donc,
Et alors, l'autre, il faudrait peut-être refaire un test d'effort. Bien vous pousser sur le vélo ou sur le tapis pour essayer de recréer cette sensation et voir ce qui se passe sur l'électrocardiogramme.
Alors je sais qu'une fois j'ai eu cette sensation-là quand je faisais ma test quand je faisais du vélo.
Oui.
En même temps que je faisais du vélo, j'étais pas à fond, j'étais bien, un bon petit rythme. Je voyais que mon cœur commençait à ralentir avec les battements. J'ai pas paniqué, j'ai continué et c'est parti.
Est-ce que vous avez senti une baisse de performance? Vous aviez plus de mal au moment où le cœur ralentissait?
Du tout, parce que je suis quelqu'un qui, j'ai une bonne condition physique. C'est-à-dire que moi, comme je suis quelqu'un qui aime bien aller au-delà de mes capacités, enfin qui aime bien lutter, si vous voulez, le rapport à l'effort, ça me dérange pas. Donc je continuais en fait, et je voyais que mon cœur, par contre, le rythme commençait à baisser. Je réduisais tranquillement, et je résistais en fait. Je résistais et ça passait.
Alors, pour commencer, je pense qu'il faudrait que vous fassiez du sport avec un cardiofréquencemètre.
Ok.
Pour voir, effectivement, si c'est une baisse de 10 battements, si vous passez de 160 à 150. C'est pas gênant. Si vous passez de 160 à 90 en quelques secondes, c'est qu'il y a probablement une anomalie quelque part, qui n'est pas forcément une grave anomalie, hein, mais qui nécessite un bilan et une prise en charge.
D'accord. Donc, parfois de l'apnée. Donc, est-ce que le cœur serait pas fatigué?
Alors, je crois qu'on doit parler des apnées, mais les apnées peuvent entraîner des conséquences sur le cœur et notamment des ralentissements excessifs du cœur. Donc,
quand vous parlez d'apnée, vous parlez de quel type d'apnée, de nuit ou de journée?
De nuit, exactement, docteur. De nuit. Alors, je sais que quand on est infecté d'un virus, etc., on l'a. Quand on est un petit peu dans bon point, j'en ai un petit peu, mais là, depuis quelques mois, j'ai maigri de 5 kilos, je dors mieux, en fait. J'en ai un petit peu.
D'accord. On va parler des apnées, et je pense que beaucoup d'auditeurs vont prendre rendez-vous chez leur médecin après l'émission.
Okay.
Merci Nordine, en tout cas.
Merci Philippe.
Gardez l'écoute, merci Nordine.
Merci, à bientôt.
Qui nous appelle de Lille. Alors, on va parler des apnées du sommeil. Et là, docteur, vous dites qu'on peut remplacer la fameuse machine.
Dans certains cas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Alors, si on peut la remplacer, par quoi est-ce qu'on peut la remplacer? On va d'abord expliquer ce que c'est que l'apnée du sommeil. C'est un trouble de quoi?
C'est un trouble de ventilation. Quand on dort, on est relâché. On dort pas comme ça, tendu, crispé. Les muscles se relâchent et il arrive que les muscles se relâchent tellement qu'en fait, les voies, ce qu'on appelle les voies aériennes supérieures, donc l'endroit par où l'air passe dans la gorge, se ferme, se collabe. Donc, pour ceux qui verront la vidéo, voilà ce qui se passe. Et donc, l'air ne passe plus. Non pas qu'on arrête de respirer quand on fait des apnées du sommeil obstructives, c'est simplement que le conduit est bouché, le conduit qui mène l'air au poumon, et que donc, cet air ne passe plus. Donc, on se retrouve à lutter.
Alors, ce qui veut dire que, quelle que soit la façon dont on respire, par le nez ou par la bouche.
Exactement.
Ça n'a pas d'importance.
Ça n'a pas d'importance puisque c'est situé après. L'air va rentrer dans la gorge, mais va se retrouver bloqué au niveau de la gorge. Et donc, ce blocage va entraîner tout un tas de conséquences. Et curieusement, ça n'est pas tant la durée de l'apnée qui est délétère, mais c'est le nombre d'apnées que vous allez faire au cours de la nuit. Et ça peut aller très très loin puisque le critère au-delà duquel on doit traiter les apnées, c'est plus de 30 épisodes par heure. Alors c'est un critère un peu arbitraire et qui a été décidé en France au-delà de 30. Aux États-Unis et en Allemagne, vous êtes traité au-delà de 5. Voilà, mais il y a une histoire de coût, il y a une histoire de conséquences aussi. Donc, en France, on a limité la prise en charge par la Sécurité sociale à 30.
D'accord.
Au-delà de 30.
Donc, ça reste, même si on en parle de plus en plus, ça reste une pathologie qui est largement sous-diagnostiquée.
Oui. Oui, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on n'a pas cette culture. Les choses sont en train de changer. Et parce que le premier à avoir parlé des apnées du sommeil, pour la petite histoire, est Charles Dickens. En 1836 de mémoire, dans son premier roman Les Aventures de Monsieur Pickwick. Et il faut savoir que Dickens était quasiment un meilleur clinicien que les médecins de son époque, qu'il avait un œil très aiguisé. Et donc l'un de ces personnages présentait tous les symptômes des apnées du sommeil et c'était un personnage obèse. Et on a dans notre inconscient collectif l'idée que les apnées du sommeil, c'est réservé aux patients en surpoids, c'est réservé aux patients plutôt âgés. Et en fait, on se rend compte...
Et aux hommes.
Et aux hommes. Et on se rend compte, en cherchant, que l'on trouve des apnées du sommeil chez des hommes, chez des femmes, chez des vieux, chez des jeunes, chez des longilignes, comme chez des gens en surpoids.
Alors, quels sont les symptômes, déjà, pour ceux qui nous écoutent?
Alors, vous avez les signes d'alerte et puis vous avez les conséquences. Les signes d'alerte, si vous êtes fatigué, si vous avez le sentiment que la nuit n'a pas été réparatrice quand vous vous réveillez, si vous vous réveillez avec des maux de tête, si vous avez une nuit agitée, si vous avez transpiré, si vous vous levez au milieu de la nuit pour uriner, pour les hommes plutôt deux fois, dans la nuit pour les femmes une fois, si vous ronflez, si vous avez des difficultés de concentration, des troubles de mémoire, si vous êtes plus irritable qu'auparavant, si vous avez une baisse de morale ou une baisse de libido, faites-vous dépister.
Il ne faut pas forcément aller voir Nadia El Bouga.
Non, si vous avez d'autres signes associés,
oui.
On va s'orienter vers une recherche d'apnée du sommeil. Vous avez des patients qui ont été traités pendant des années pour un syndrome dépressif, mis sous antidépresseurs, alors qu'en fait, ils avaient simplement des apnées du sommeil. Et qu'une fois les apnées traitées, les patients ont pu se sevrer de leur traitement antidépresseur.
Bon, comment est-ce que vous les prenez en charge, vous, docteur Bernard?
Naturellement.
Ah, allez-y.
Déjà, on dépiste les apnées du sommeil. Il y a deux examens pour les dépister. Le premier qui s'appelle la polygraphie respiratoire nocturne. Donc, on vous barde d'un tas de capteurs. Vous rentrez à la maison, vous dormez chez vous et on analyse les différents paramètres du sommeil. Et vous avez la polysomnographie qui se fait plutôt dans un centre du sommeil où là, on va enregistrer l'activité cérébrale pour être vraiment certain que vous dormez. Et pour rechercher ce qu'on appelle des micro-éveils. C'est-à-dire que... on l'a pas dit, mais l'apnée du sommeil pour le corps et pour le cerveau, c'est un véritable stress. On est en train d'étouffer. Et donc, pour lutter contre ce stress, vous êtes réveillé. Mais c'est ce qu'on appelle un micro-éveil, donc vous n'avez pas conscience de ce réveil. C'est juste, vous sortez de l'état de sommeil parce que le cerveau dit « Attention, il se passe un truc, là, réveille-toi, réveille-toi. » Et donc, on se réveille, on reprend sa respiration, on se rendort et on refait une apnée et ainsi de suite.
On n'a pas conscience de tous ces événements.
On n'a pas conscience de ces événements, mais on se retrouve avec ce qu'on appelle un sommeil fragmenté qui n'est absolument pas réparateur parce qu'on n'arrive pas à atteindre ce sommeil paradoxal qui est le sommeil où on rêve, où on récupère de sa journée, tant sur le plan physique que psychique. Et en fait, les apnées du sommeil empêchent d'atteindre ce niveau parce que à chaque fois que vous commencez à vous endormir, clac, vous êtes réveillé et vous repartez au niveau du sommeil lent.
Donc, une fois qu'on les a dépistés, qu'est-ce qui se passe ?
Ensuite,
si on veut éviter le fameux appareil...
Alors, en fonction du nombre d'apnées et en fonction de la position dans laquelle vous avez des apnées, il y a différentes façons de faire. Quand vous avez plus de 30 apnées par heure, là, la question ne se pose pas tellement. On va se diriger vers ce fameux appareillage qui vous fait ressembler à Dark Vador. Les opposants
et
vous disent...
Et divorcé dans l'année.
Alors, oui et non. Parce que les opposants vous disent « Oui, mais ça fait du bruit, votre machin. » Sauf que le machin en question fait entre 20 et 30 décibels et qu'un vrai ronfleur monte à 90-100 décibels. Donc la gêne est beaucoup plus supportable pour le conjoint. Chez les anglo-saxons, ça ne se pose pas parce que dans leur culture, ils font chambre à part dès le début. Mais en France,
ouais, c'est-à-dire qu'à des logements plus petits, en région parisienne, ça coûte beaucoup plus cher. Donc sinon, quelle est l'alternative à l'appareil ?
Alors, on peut porter ce qu'on appelle les orthèses d'avancée mandibulaire. C'est une gouttière qui va vous rendre prognate. C'est-à-dire que la mâchoire va avancer. En faisant avancer la mâchoire, on évite la chute de la langue au fond de la gorge. C'est en partie la langue qui vient obstruer les voies aériennes. Donc, vous avez ce port de gouttière, donc cette espèce d'appareil en plastique que vous mettez toutes les nuits. Vous avez certaines chirurgies ORL, notamment du voile du palais, une chirurgie laser, mais qui est assez douloureuse, semble-t-il. Si vous ne faites des apnées du sommeil que lorsque vous êtes sur le dos, eh bien, l'idée, ça va être de vous empêcher de dormir sur le dos. Alors pour ça, vous avez des gilets avec des boudins. Donc là, c'est pas très esthétique non plus, mais vous enfilez ça. Et dans votre sommeil, dès que vous vous mettez sur le dos, c'est tellement inconfortable que... inconsciemment, vous vous remettez sur le côté ou sur le ventre. Et puis, la toute dernière avancée, c'est la kiné. La kiné de rééducation linguale. Je crois que c'est une dizaine de séances. Ça dure pas très longtemps et vous avez des exercices à faire à raison de 2 minutes par jour, qui sont des exercices très simples. Hein. Vous mettez la langue au palais, vous tirez la langue, etc. Et cette rééducation...
Vous voulez bien le faire pour la caméra
ou... Non, parce que j'ai pas eu le... Je ne fais pas d'apnée du sommeil encore et je n'ai pas eu accès à cette rééducation.
Donc, il y a cette rééducation qui existe.
Voilà, et cette rééducation entraîne de nettes améliorations. Alors, plutôt chez les patients qui font des apnées du sommeil sur le dos et qui permettent de se passer de l'appareillage.
Docteur Mathieu Bernard, vous écoutez l'émission en podcast hein, sur beurrefm.net, vous regardez la vidéo... de l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM et je rappelle que vous avez publié Le cœur, notre autre cerveau chez Larousse. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.